Vivre d'amour avec sainte Thérèse d'Avila, voici une conférence du père Marie-Pierre Barjou, Carme, conférence enregistrée au Carmel de Bayonne le 25 octobre 2015, lors de la journée de clôture du 500e anniversaire de la naissance de sainte Thérèse d'Avila. Vivre d'amour avec sainte Thérèse d'Avila, le père Carme Marie-Pierre Barjou.
Voilà, bonjour à tous, frères et sœurs. Merci à nos sœurs de nous accueillir ainsi. Thérèse, on lit, fille intrépide, femme inlassable, sœur très humaine, mère attentive. Oui, c'est tout cela, c'est tellement plus encore. J'aimerais un petit peu le signifier pour vous très, très simplement, j'espère. Il y aura beaucoup de choses, mais vous glanerez une ou deux choses, peut-être ça suffira. Vous savez, celui qui... J'introduis un peu mon propos. Celui qui approche Thérèse, comme peut-être vous l'avez fait, durant ces 5 années, surtout cette année jubilaire, il a peut-être cette impression, ou elle a peut-être cette impression d'un foisonnement. C'est assez touffu, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de grâce, il y a une multitude d'enseignements. Ça peut paraître effectivement diversifié, très riche. C'est vrai, et ça l'est, parce que quand la grâce de Dieu vient imprégner une nature aussi riche, on peut dire, comme celle de la Madre, ça fait des feux d'artifice divers et variés. Hein, ça se diffracte en un arc-en-ciel de dons, de manifestations, et puis surtout de cadeaux. Voilà. Cependant, si on approche un peu plus, et c'est normal, on va l'expliquer tout de suite, il y a une véritable unité de sa vie, mais aussi, bien sûr, parce qu'elle n'a rien d'autre à nous enseigner que ce qu'elle a vécu, il y a une unité réelle de son enseignement, de sa pédagogie, on peut dire, de la vie spirituelle. Alors nous allons un petit peu approcher ça. Vous connaissez sans doute ce passage de saint Paul aux Corinthiens. Il y a certes diversité de dons spirituels, mais c'est le même esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun. Voilà. Alors, notre sainte, elle aussi, elle n'en a pas été épargnée, cheminé vers plus d'unité dans sa vie. Et je voudrais prendre juste un petit peu ce créneau de l'unité. Peut-être ça vous met pas tellement en appétit, mais bon, pardonnez-moi, ça sera, vous verrez. De l'unité, ça me semble un grand défi aujourd'hui, d'une unité personnelle comme d'une unité de communauté, de famille ou de peuple ou du monde, hein, on va dire. Je vais prendre ce créneau-là pour entrer dans son enseignement un petit peu et dire quelque chose qu'elle nous transmet, à vrai dire. Alors, la grâce de Dieu, je le disais, descend, imprègne une nature et elle fait œuvre d'unification. Je ne sais pas si vous éprouvez un petit peu cloisonné, divisé, en mal de réconcilier un petit peu beaucoup de choses dans vos vies. Moi, en tout cas, c'est mon cas. Alors, je peux peut-être constater que chez vous aussi. En fait, l'adversaire, le malin, le démon, travaille à diviser, n'est-ce pas ? Il est le Satan, celui qui se met en travers. Donc, il sépare, il divise. Et dès lors que l'on se convertit, on va entrer dans un chemin de réconciliation. Bon, c'est facile, hein, on comprend bien ça. C'est une réconciliation fondamentale avec Dieu, voilà, que nous célébrons sans cesse, qui s'exprime et va se transmettre dans une réconciliation à la fois personnelle, intérieure, moi-même, hein, parce que souvent je veux ceci et puis l'inverse de ceci, hein, et puis une réconciliation, bien sûr, fraternelle. Alors, il y a une vraie unité du chemin chrétien, ou une unification du chemin chrétien. Cela ne veut pas dire uniformité, parce que s'il y en a bien qui ne fabrique pas des clones, c'est bien le bon Dieu. Hein? Vous voyez, quand on dit unité, on a parfois un peu cette idée-là de nivelage. Or ça, non, pas du tout. Ça, c'est plutôt notre sport à nous. Nous, les humains, nous fabriquons souvent des identiques. Et enfin, c'est assez évident, hein, j'enfonce une porte ouverte. La société aujourd'hui, puis tout ce qui bruisse autour de nous dans le monde, vise, enfin vous en êtes conscient, je pense, à faire des clones un peu, enfin à fabriquer un petit peu une uniformité, hein. On doit consommer grosso modo les mêmes choses, hein, vivre un peu de la même façon, être d'accord avec tous. Voilà, ça c'est un peu difficile quand même. Vous sentez bien que notre foi ne nous indique pas nécessairement ce chemin-là. Alors effectivement, avec la grâce de Dieu, il n'y a pas uniformité, il y a diversité, mais unité. Dieu seul peut ça. Quand il crée, au premier jour, il fait le ciel là-haut, la terre ici-bas, ok, les poissons, tout est à sa place, hein, on veut dire. Hein. Il sépare, il divise, il sépare, mais dans une unité de création, il met chaque chose à sa place. Quand il recrée, ce qu'il fait actuellement avec nous, eh bien, il va également réordonner les choses. Hein. Il va remettre les choses, et les choses de ma personne, comme les choses du monde, à leur place, en harmonie les unes avec les autres, en relation les unes avec les autres. Non pas d'opposition, mais de travail ensemble, si on peut dire. Et mon être doit passer ainsi dans cette unité, diversité. Voilà. Je dis cela pour donc éclairer mon petit propos, qui va tenir en trois points. Quand vous verrez le troisième arriver, vous direz c'est bientôt fini. Alors le premier, je vais essayer de regarder justement cette œuvre de la grâce de Dieu, à l'école de Thérèse bien sûr, dans trois lieux, on pourrait en choisir 10 certainement, mais j'en retiens trois. Le premier, c'est l'unité personnelle, parce que tout commence là, on va le dire. L'unité de ma personne, de ma vie, au-dedans de moi. Et je vais me centrer plus sur les questions de psychologie et spiritualité, si on veut. Le deuxième point, ce sera l'unité de vie. Bon, c'est assez classique, hein, et au Carmel, je pense qu'on est assez bien placé pour l'enseigner, en tout cas pour le recevoir de nos saints, de notre tradition, l'unité d'une vie de prière et d'une vie active, vous voyez, action, contemplation, pour faire bref, vous comprendrez ça. Avec Thérèse, on a un super maître. Et puis, en troisième lieu, un peu plus diffus, je regarderai plus vers l'humanité et un chemin d'unité, en même temps de diversité, dans les appels à la solitude et la vie commune, entre une vie retirée et une vie engagée. Voilà, vous verrez ça un peu, c'est peut-être un petit peu pas très clair pour l'instant, ça s'éclairera. Premier point, donc l'unité personnelle, l'unité intérieure. Il faut commencer par là, parce que nous le savons, si nous ne nous mettons pas au travail là, rien ne changera dans le monde, c'est évident. Hein. La première chose, c'est de se convertir. Et se convertir, ça signifie ça, marcher vers, marcher, c'est un cheminement, vers l'unité de mon être. À partir, voilà, je lance ma première cartouche, à partir du dedans, à partir du cœur. Ça va être comme un refrain, ça, c'est à partir du cœur. Voilà, ça c'est, je crois que c'est, ça, j'espère que ça, c'est assez thérésien ça quand même. En tout cas, il me semble. Donc c'est à la racine qu'il faut travailler pour que ce soit profond, pour que ce soit efficace. Et vous voyez, pour Thérèse, c'est pas d'abord la vie qui prime, mais c'est d'abord la mystique. Hein? La mystique et la morale, la vie, l'agir chrétien jaillit d'une expérience, d'une rencontre, d'une prière. Vous voyez, hein? Le mouvement, il y est bien, mais il y a une source et il y a un prolongement. On va couper nos portables, hein, ça c'est logique, on est dans une église. Donc, mais c'est pas grave. Donc l'unification intérieure, c'est donc, je l'ai bien dit, une mise en ordre. Hein? Là où le malin fait de la complication, génère de l'obscurité, du trouble, du mélange, Dieu travaille à mettre en ordre, en cohérence, en relation, et dans la lumière, et dans la vérité, et du coup dans la paix. Voilà. Alors, c'est un chemin pour chacun. Que cette vie spirituelle, c'est un chemin où progressivement, dans cette transformation que nous vivons, et c'est de nuit, et dans l'imploration de la grâce, je vais entrer dans la lumière de Dieu, et dans ma propre lumière, et dans mes ténèbres aussi. C'est-à-dire donc que je vais entrer davantage dans la vérité de Dieu et dans la vérité de l'homme. Dans ta lumière, nous voyons la lumière. dans la lumière de Dieu, nous discernons en vérité ce que nous sommes, ce qu'est le monde, ce qu'est la création aussi, ce que j'ai à en faire, par exemple. Vous savez que ce chemin que Thérèse nous engage à prendre, c'est le chemin plus particulier du Carmel, c'est le chemin de la vie intérieure et de la vie théologale. Je ne pense pas qu'ici j'ai le temps de déployer tout ça, parce que c'est beaucoup de choses, mais le choix prioritaire que nous enseigne Thérèse, c'est bien celui de l'intériorité, être attentif à ce qui se passe à l'intérieur, en sachant que c'est le Saint-Esprit qui est chez lui, chez nous, et puis cela dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour, c'est-à-dire dans une vie théologale. Hein? Les deux guides d'aveugles sur ce chemin de l'union, sur ce chemin de la transformation, ce sont vraiment la foi et l'amour. Alors, cela opère une véritable réconciliation en moi, une guérison, on va dire une guérison dans l'amour, une agapé thérapie, effectivement. Thérèse, mystique, nous étonnera toujours par son profond réalisme. Elle insiste énormément, vous le savez peut-être, sur la connaissance de soi. Donc je parlais tout de suite de vérité de soi, vérité de l'homme, je suis dans mon sujet. La connaissance de soi, voilà quelque chose qui a un peu de peine à émerger aujourd'hui chez les personnes, il me semble. Qu'est-ce que signifie la connaissance de soi ? D'abord pour elle, c'est décisif, à toute étape, à tout moment du chemin. La connaissance de soi est le pain, dit-elle, avec lequel il faut, dans cette voie de la prière, prendre tous les autres mets, si délicats qu'ils soient. En tout temps, à toute étape, la connaissance de soi est indispensable. Et je pense que si on y réfléchit un peu, on voit que la connaissance de soi est un fruit de la prière, certes, oui, on vient un peu de le dire, mais c'est aussi une condition d'un chemin de prière. Plus je prie, plus j'entre dans la connaissance de moi-même, et en même temps, plus je suis encouragé à continuer le chemin, si on veut. Qu'est-ce que signifie cette connaissance de soi pour Thérèse ? Je fais appel au père Marie-Eugène, bien sûr, ici. C'est deux choses pour Thérèse, la connaissance de soi. Il y a une connaissance de soi spirituelle, qui est finalement l'humilité, hein, la vertu thérésienne, on va dire, l'humilité, la connaissance de soi, l'humilité. Ce que je suis en vérité devant Dieu, devant les autres, les beautés, les dons, les capacités, les richesses, les plus, mais aussi les failles, les blessures, les imperfections, les maladies, que j'ai aussi, mes tendances mauvaises. Thérèse, finalement, un peu comme Saint Angèle, là, elle est comme penchée sur ce double abîme, le tout de Dieu, le rien de l'homme, hein, todo y nada. C'est vraiment, on la sent toujours penchée ainsi. Alors, ça, c'est la première connaissance, connaissance spirituelle, humilité, vérité. Seconde connaissance, elle est, et je vais insister davantage, plus psychologique. On a pu vraiment tenir Thérèse comme une précurseur, vous le savez peut-être, de la psychologie moderne. Certes, on est au XVIe siècle, on est encore loin de toutes les découvertes qu'on a pu faire, et aujourd'hui, hein, au niveau des sciences humaines, on est quand même au point. Elle est quand même celle qui, à force de scruter au-dedans d'elle le Dieu qui l'habite, à force de s'intérioriser, de se recueillir, car c'est toujours le recueillement qui prélude à toute chose, à force de cela, par la grâce de clairvoyance, de lucidité, d'analyse, la puissance qu'elle a reçue de Dieu, elle a, avec son sens très affiné, pu dégager comme des lois de la psychologie, avant les autres, j'allais dire. Donc une sorte de géographie de l'âme, une sorte de géographie de l'âme, de l'intériorité. Vous le savez, ici, évidemment, tout commence par sa vision du château. L'âme est un château, une multitude de pièces qu'elle a rassemblées en sept, on le sait, par besoin pédagogique, on va dire. Multitude de demeures. Je retiens deux enseignements de la Madre à propos de cette connaissance psychologique. Premier enseignement, ce qu'on peut appeler la distinction des facultés. N'ayez pas trop peur, ça fait pas de mal. Mais c'est pour dire une chose assez simple que nous éprouvons en définitive quotidiennement. Quoi donc ? Vous savez qu'elle distingue les trois facultés, comme saint Augustin le faisait. L'intelligence, la mémoire et la volonté. Eh bien, elle constate à une période de sa vie de prière, sous l'effet de la grâce de Dieu, que ces facultés, intelligence, mémoire et volonté, ont une autonomie de fonctionnement, c'est-à-dire travaillent isolément l'une de l'autre, même si elles sont intenses et étroites connexions. Il y a quand même une autonomie des deux. Alors, cela, elle ne voulait pas trop le croire, elle était un peu surprise quand Dieu avait un petit peu paralysé une des puissances, les autres étaient en ébullition, voyez. Donc, par exemple, vous pouvez être très recueilli et puis, en même temps, quelque part, je mets des grands guillemets, ça s'agite. C'est très distrait, voyez. Donc ça, c'est son expérience, elle nous l'enseigne. Nous pouvons être en prière, au profond de nous-mêmes, et en même temps, dans une zone peut-être plus superficielle, être dans l'agitation. Voilà quelque chose de très précieux, très riche. Quand on fait une école d'oraison, tout le monde est là au moment des distractions, hein. La soirée consacrée aux difficultés dans la prière fait ça le comble, évidemment, parce qu'on est tous concernés. Et là, on a quand même quelques bonnes nouvelles à donner aux personnes. Non pas qu'elles vont plus être distraites, ça malheureusement, on traînera ça jusqu'au bout. Faudrait demander aux sœurs, je sais pas, mais voilà, en tout cas du côté des frères. Et mais on a des petits moyens de comprendre, parce que Thérèse nous dit bien, si tu comprends pas, tu vas abandonner. Et elle l'a constaté par expérience, si on ne se comprend pas, on abandonne le chemin. Elle veut comprendre, elle cherche. C'est une tête chercheuse. Et donc, mieux se comprendre nous aide à persévérer, à endurer et à continuer le chemin. Donc ça, c'est la première notion, la distinction des facultés. La deuxième, elle est conjointe quand même, c'est la profondeur de l'âme. Thérèse fait vraiment l'expérience, mais nous aussi, j'espère, je pense, que l'âme a divers niveaux de profondeur. Oui, quand on fait l'école d'oraison aussi, on a une séance sur... on utilise un schéma du Père Caffarel, vous savez, pour la structure de l'homme. On met des couches. Le corps, c'est la couche extérieure. L'intellect, les idées, les notions un peu plus profonds. Les passions, les sentiments un peu plus au-dessus aussi. Vous voyez, puis plus on descend, voilà, on va vers le cœur profond. Et évidemment, ça, elle l'a vraiment éprouvé. Il y a des zones en nous, et plus intérieures, plus paisibles au profond de nous. Là où siège le Seigneur, la septième demeure de l'âme, un centre rayonnant, plein de lumière, plein de paix, inaccessible aux malins. Et puis, c'est clair que là où ça prie, ben c'est plus intérieur que là où ça sent ou ça perçoit, voyez. Alors, une fois qu'on a un petit peu intégré ces deux notions, qui sont des notions d'expérience, eh bien, je crois que celui qui prie va les comprendre par l'expérience, ces choses-là, et va se comprendre peu à peu. Et la maturité qu'il va gagner, c'est justement de percevoir qu'il y a le Seigneur qui agit profondément, mais qu'il y a aussi des strates plus superficielles de mon être qui s'agitent ou qui peuvent être habitées de telle ou telle chose. Donc, c'est très précieux de comprendre cela. Évidemment, c'est un long processus de purification, de déguisement, de mes sens internes. Voilà. Exemple, deux exemples que je donne pour voir que c'est de la vie tout ce que je dis là. Premier, l'expérience de la petite Thérèse, voilà, fille de la Madre quand même. Vous savez, pour avoir lu sans doute ses œuvres un peu, qu'elle ne cesse de dire « je sentais que ». Je sens. Alors évidemment, sentir pour nous, c'est quelque chose d'un petit peu cutané. Mais pour Thérèse, quand elle l'emploie, en tout cas le plus souvent, ce n'est pas épidermique, on va dire. Ce n'est pas du sentiment. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas non plus de la sensation. Vous sentez bien ça. Je sens, c'est qu'il y a un sens intérieur très développé, fin, subtil, parce que Dieu n'est pas dans la bourrasque, il est dans le fin murmure de silence. Et donc, elle s'est très aiguisée en elle. Et elle sait écouter cela. Savons-nous, frères et sœurs, écouter profondément. Le Seigneur ne parle pas dans la chair de poule. Il parle bien profond. C'est discret, c'est délicat, mais c'est très prégnant, c'est fort. Voyez par exemple ce qu'elle dit. Vous souvenez, petite Thérèse est allée demander à entrer au Carmel à 14 ans, n'est-ce pas? Au Saint-Père, Léon XIII, c'est ça, Léon XIII? Je ne suis pas sûr. Alors, il avait l'air tellement vieux qu'il avait l'air mort, hein, d'ailleurs, hein, dit-elle, hein, avec toute son enfance et sa simplicité. Et puis, évidemment, on lui dit, mon enfant, vous ferez ce que vos supérieurs vous diront. Hein, vous souvenez de la réponse. Elle sort du Vatican, là, de l'audience, et évidemment, elle pleure toutes les larmes de son corps, parce que son entreprise a échoué visiblement. Hein. Alors, évidemment, la météo extérieure est toujours à l'unisson. Alors, il pleut. Hein, le plus souvent, c'est... Voilà. Donc, il pleut, elle pleure, enfin, tout va bien. Et ce qu'elle dit, je sentais au fond du cœur une grande paix, puisque j'avais fait absolument tout ce qui était en mon pouvoir de faire pour répondre à ce que le bon Dieu demandait de moi. Mais cette paix était au fond, et l'amertume remplissait mon âme, car Jésus se taisait. Alors, petit exemple simple, hein, pour montrer ça, voilà. Quelqu'un qui vit au fond, voyez? Quelqu'un qui vit beaucoup plus au fond, qui écoute au fond, et qui ne se laisse pas subjuguer par quelque chose qui fait plus de bruit, qui retentit, qui vibre beaucoup plus. Voilà. Hein? Allez, je vous dis ça. Ce matin, j'étais avec des jeunes, bien jeunes, en voiturage, là, et alors qu'ils étaient amis, bien sûr, hein, je dis, depuis combien de temps vous êtes ensemble? Et moi, je pensais qu'ils étaient ensemble depuis 2-3 ans, et puis ils étaient ensemble depuis 2 mois. Bon. Alors, je les invitais à venir à la conférence, mais vous voyez, je ne crois pas qu'ils soient là. Donc, c'est des surfeurs, là, de Biarritz, bien sûr, et alors vraiment... Voilà, ben je leur ai souhaité beaucoup de bonheur, hein, mais je leur ai aussi dit, vous vous aimez vraiment là? Ah oui, oui, il y a quelque chose qui est différent et tout. Bon. Alors voilà, je voulais interviewer si c'était un peu du fond, quoi, vous voyez. Bon, je suis un peu grossier comme ça, mais j'ai essayé de les évangéliser, on va dire. Voilà. Donc, ça c'est un peu, voilà, le premier exemple. Le second, mais je crois que c'est un exemple aussi assez concret et fréquent, c'est la question du pardon. Beaucoup de personnes viennent vous trouver en disant « Moi, je n'arrive pas à pardonner à cette personne-là, hein, n'est-ce pas ?» Alors, si on interviewe un peu, on peut constater que la personne, certes, peut-être n'est pas aboutie dans son chemin du pardon, mais est en route. Elle ne veut pas faire du mal à la personne. Quand il y a des pensées négatives, elle les contre. Elle dit « Non, 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 elle n'est pas que ça. Elle m'a fait une crasse, mais allez, je pardonne. » Voyez ? Elle met pas des obstacles sur le chemin de l'autre. Voilà. Bon, on sait bien, le pardon, c'est un processus complexe, avec beaucoup de psychologie. Il y a au moins 20 étapes qui ont été décrites. Je sais pas, il y a des bouquins très savants là-dessus. Donc, c'est dire, les personnes sont sur le chemin du pardon s'ils veulent pardonner, bien sûr. Et s'ils ne cultivent pas la vengeance. Voilà aussi une maturité qui se gagne. Quand je suis capable de voir que le pardon qui m'appartient pas, il est celui de Dieu, que Dieu dépose dans mon cœur, bien sûr, mais j'y consens, je travaille avec, je fais ce que je peux, je lève mon pied, eh bien, il est en route, il est un long chemin. Je crois que ce genre d'expérience nous aide à viser un peu ce que je dis ici comme en matière de maturité. Hein, on dit souvent le sentiment. Oui, bon, c'est facile, mais c'est un peu vrai. Le sentiment du pardon et la réalité du pardon, il y a un petit espace entre, hein, vous voyez. Alors, je conclue mon premier point. L'homme participe activement, passivement à cette œuvre de réconciliation intérieure, à cette distinction des niveaux de ma psychologie et de mon être intérieur. Peut-être, j'aime bien ce terme, s'agit-il du pouvoir des profondeurs. Retrouver le pouvoir des profondeurs. Vous voyez, quand saint Paul disait là récemment l'Épître aux Romains, « Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. » Mais c'est nous ça, n'est-ce pas, non? Oui, c'est nous, on est plein de bonne volonté, on en est saturé, j'espère. Voilà, par le chemin de la prière, retrouver ce pouvoir des profondeurs. Pouvoir de dire non à la haine et à la vengeance, et pouvoir de dire oui à toutes les forces de bonté qui sont en moi. Vous voyez, c'est un peu ça, choisir le vrai, choisir le beau. Bon, on peut dire autrement, libérer sa liberté. C'était Saint Jean-Paul II qui disait comme ça, libérer sa liberté. Évidemment, ce pouvoir-là, cette unité intérieure, c'est un long parcours, douloureux, progressif, qui va nécessiter des nuits, une lessive. Saint Jean de la Croix le chante assez bien, comme les autres. Voilà. Et je conclue avec Thérèse, la Madre. L'âme qui commence à marcher résolument dans cette voie de l'oraison et qui en est arrivée à ne plus faire cas des consolations ou des tristesses excessives, des goûts et des tendresses qu'elle reçoit ou dont elle est privée, cette âme a déjà parcouru une grande partie du chemin. Vous voyez, elle atteste que le cheminement spirituel, s'il s'affranchit quelque peu d'une appréciation sensible, eh bien, est en véritable croissance. Voilà, ça c'est mon premier petit point. Le second veut aborder le grand thème, mais j'essaierai de ne pas m'éloigner trop et être trop abondant, sur l'action et la contemplation. Vous avez bien fait de venir ici, frères et sœurs, je crois. Parce que vraiment, c'est vrai qu'on aime petite Thérèse, bien sûr, c'est plus facile à lire, tout ce qu'on veut. Mais il n'y a pas plus grande maîtresse de vie intérieure, de vie chrétienne, pardon, que la Madre. C'est géant, c'est vraiment énorme. Et en cette année que nous clôturons, c'est vraiment cela dont nous rendons grâce. Quel don Dieu nous fait en cette personne et en son enseignement. Quel don. Pas pour les sœurs seulement, d'abord, c'est pour nous tous. Donc il s'agit ici, action contemplation, d'être mieux chrétien, d'être vraiment chrétien. C'est-à-dire, comme dirait le Saint-Père aujourd'hui, disciple missionnaire. Disciple qui suit, missionnaire, qui va vers les autres. Vous voyez, c'est vraiment être chrétien, moi je dis ça en mode mineur, non pas en mode mineur, mais en mode majeur, quoi. Waouh, voilà, ça respire. Pas être, si on veut, des intermittents de l'Esprit Saint. Oui, plein temps, pas les chrétiens du dimanche. Sénégal, notre évêque là-bas, il se plaint un peu, non, il aime beaucoup ses chrétiens, mais il se plaint un peu que c'est des chrétiens intermittents, c'est-à-dire des chrétiens de fête. Alors il y a la kermesse, la paroisse, tout le monde est là, parce que c'est sympa, il y a à boire, à manger, il y a de la danse. Mais dans la semaine, personne n'est dans l'église, personne. Et la messe du jour, c'est les religieuses qui sont là. C'est très triste, hein, ça. Bon, c'est pas notre cas peut-être, mais voyez, être vraiment des chrétiens chaque jour, quoi, voilà. Alors ça, c'est vraiment la passion de Thérèse. Elle veut vraiment nous l'enseigner. Elle n'aime pas l'hypocrisie, elle a en horreur le mensonge. Et vraiment, le Christ est son unité. Et le Christ, elle le contemple, elle ne cesse de le contempler. Le Christ est dans la montagne, il prie. Le Christ missionne partout, il visite tous les villages de son pays. Vous voyez, le Christ qui est là, le priant et le missionnaire. Alors Thérèse, elle prend ça au pied de la lettre et elle le dit avec ses mots et elle le dit pour nous aujourd'hui. En fait, elle ne fait rien d'autre que de déployer avec sa propre expérience et ses mots la devise du Carmel. Vous connaissez, je pense, la devise du Carmel. Double. Il est vivant le Dieu devant qui je me tiens. Zèle contemplatif. Et je suis rempli de zèle pour Yahvé Sabaoth, zèle de la mission, de l'évangélisation. Donc elle entend ça, et elle va le redire à sa manière. Elle va laisser vraiment l'évangile prendre chair dans son être. Elle a le sens des choses qui passent, elle a le sens des choses de ce monde, mais elle a le sens des choses de Dieu surtout. Et donc, on pourrait dire qu'elle a cherché à vivre sa prière et à prier sa vie. Voyez, aller-retour, vivre sa prière, prier sa vie. Je pense qu'elle serait d'accord avec Marthe Robin qui disait « Ma vie vaudra ce que vaudra ma prière, mon oraison. » Hein ? Voyez, de bien mettre les choses en relation. Pourquoi elle est si douée en cela, Thérèse ? Il me semble, c'est parce que, encore une fois, elle s'adresse au cœur. Et dans le cœur, il y a l'Esprit Saint. depuis le saint jour de notre baptême. Et cet Esprit Saint, vous le savez, il va dans deux... C'est de l'amour, hein. C'est de l'amour en condensé, quoi. C'est de l'amour personne, hein. C'est donc de l'amour qui vit, hein, de l'amour vivant. Alors, cet Esprit Saint, ça va dans deux sens, dans deux directions. Encore, le Père Marie-Eugène, il explique bien ce truc-là. Eh bien, le premier mouvement, c'est le mouvement-là. Il dit « Père, Abba ». C'est la prière, l'Esprit Saint. Comme nous avons unis dans le même esprit, nous pouvons dire « Abba ». Ok. Le mouvement, l'esprit de la prière, le mouvement filial, le mouvement filial. Je suis fils, père. Et puis, il y a le mouvement fraternel, horizontal. Les deux mouvements en une seule source. Les deux mouvements en une seule source. Ne coupons pas une source. Ne coupons pas un mouvement. On va abîmer la source. Le deuxième mouvement m'envoie vers l'autre. La vérification, la vie fraternelle. Le deuxième mouvement me dit « frère ». De l'amour vers le haut, de l'amour à l'horizontale. Voilà, parce que l'amour est tout. Rien au-dessus de la charité pour Thérèse. Ça, c'est son refrain. Rien au-dessus de la charité. Alors, ça, évidemment, elle ne l'a pas inventé. C'est l'Évangile qui le dit. Les deux commandements en un seul. Matthieu 22, hein, le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Donc, la seule question, finalement, elle est assez simple, hein. Comment je peux prendre feu? C'est-à-dire, comment je peux laisser cet Esprit-Saint me mener, me conduire? Comment je peux vraiment prendre feu? Et Thérèse, là, c'est clair, il faut s'approcher du feu. Il faut lui tenir compagnie, il faut être là. Pas une fois, deux fois, tout le temps. Il faut se laisser purifier parce qu'il y a des choses impures en nous, et puis ensuite sanctifier et prendre feu nous-mêmes. Chez les contemplatifs, l'amour est toujours très fort. Chez ceux qui s'approchent du feu, hein, les contemplatifs. L'amour est toujours très fort, il se manifeste donc fortement, de bien des façons. C'est un grand feu, il ne peut que briller d'un grand éclat. C'est beau ça, hein? Vous avez entendu? Vous êtes encore là? Oui. Alors, c'est ça. Donc, la base, c'est la prière. C'est s'approcher, c'est tenir compagnie, c'est l'amitié transformante, c'est vraiment vivre avec lui. Pas seulement à genoux une fois dans la journée, deux fois, c'est la journée entière avec lui, tenir compagnie. Donc, aimer sans s'épuiser, vous savez, c'est la question de Mère Teresa, comment aimer sans s'épuiser, porter un fruit qui demeure. Je crois que Thérèse nous répond. Je crois que Thérèse nous répond vraiment. Si notre amour du prochain ne s'enracine pas dans l'amour de Dieu, nous n'y atteindrons jamais parfaitement. Donc voyez, Thérèse fabrique, forme des apôtres contemplatifs. On va dire contemple actif avec la... Contemple actif. Bah, je crois que c'est Daniel Ange qui dit ça. C'est facile. Contemple actif. Hein, des Marie-Marthe, on va dire. Hein, des Marie-Marthe, des Jean-Pierre, si vous voulez, pour les garçons. Donc, d'autres Christ. Et Thérèse l'enseigne. Tout le chemin thérésien s'unifie par le haut. Marcher vers l'union transformante. La septième demeure de l'âme, où Dieu est tout. Alors, il y a un lieu, vous le savez, très thérésien. C'est Béthanie. Pas si vous êtes allé par là-bas, vers Jérusalem, il y a un lieu Béthanie, il y a plusieurs Béthanies qui ont été identifiées. Et c'est là que vivaient les amis de Jésus, vous savez, Marthe, Marie et Lazare. Et donc, Marthe et Marie, on connaît ça, Luc 8, je ne me souviens plus. Ça a beaucoup fasciné notre mère Sainte Thérèse. Hein. Béthanie, c'est vraiment un lieu source. Hein. Quand le chemin est arrivé à son terme, Marthe et Marie ne se chicanent plus. Marthe et Marie offrent l'hospitalité ensemble à Jésus. C'est pas beau? Il y en a une qui cuisine, paisiblement, pour son Seigneur. Un bon plat, ça fait du bien à tout le monde. À Jésus d'abord. S'il n'y avait personne pour le faire un bon plat, ça serait très triste. Ce serait très triste, là. Et puis, il y en a une autre qui s'abreuve de ses paroles. Parce qu'il est de la nourriture, Jésus. Sa parole est consistante et nourrissante. Alors, il faut consommer Jésus et lui donner à consommer, j'allais dire. Donc, c'est vrai qu'au sommet du chemin, au mariage, Marthe et Marie ne se bagarrent plus, ne se jalousent plus. Elles sont ensemble pour servir le Seigneur. Parce que finalement, il y a de l'amour là-bas dedans. L'amour a fait l'unité. Je cuisine en aimant, je prie en aimant. C'est de l'amour. Bref. L'amour réconcilie. L'amour unit. Et du coup, on est en paix. On est en paix. Et Thérèse nous l'a bien enseigné à travers ces deux figures de Marthe et de Marie et du, la figure, l'image maîtresse, reine de, du mariage spirituel. Hein? Je vous propose une petite halte en chantant. Nada te turbe, nada te spande, quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te spande, solo Dios basta. Voilà, merci Thérèse de nous répéter ça, que Dieu seul suffit. Nous en avons l'intime conviction et tu nous aides à le vivre. Troisième partie, l'unité de l'humanité. Thérèse nous entraîne dans une vie réconciliée où le don aux autres et la vie personnelle s'harmonisent bien l'un l'autre, se nourrissent bien l'un l'autre. Vous le savez pas peut-être, mais Thérèse aimait la solitude. Pourtant, s'il y a une femme relationnelle, c'est bien elle. Elle le dit, je ne me lasserai jamais d'être seule. Donc, comme un don en elle. Alors, le Seigneur a bien pris appui sur ce don-là pour le parfaire totalement, le visiter et lui faire servir son projet. En fait, pour Thérèse, la solitude, c'est bon pour prier. Pour prier. Pour le projet de prière intense, ardente, qu'elle nous enseigne, la solitude convient. Une solitude physique, si elle est possible, et puis sinon, en tout du moins, une solitude intérieure. Se mettre à l'écart, fermer la porte, prier son Père dans le secret. Jésus avait déjà enseigné l'oraison, bien sûr. Pour être les yeux dans les yeux, le cœur dans le cœur, eh bien, il faut être vrai et il faut être avec le Maître et avec, avec l'Époux. Cela, c'est le cœur qui le dicte. Mais Thérèse l'a aussi l'a vu dans l'Évangile. Elle a regardé Jésus qui tout seul partait le matin, la nuit, dans la montagne tout seul. Elle a dit, c'est ça qu'il faut faire. Il l'a fait, non pas pour lui, il l'a fait pour nous enseigner, hein, nous le savons. Ne perdons aucune goutte de l'Évangile. Laissons-le nous enseigner. Alors, c'est ça. Prier dans la solitude. Dieu attire au cœur. Et là, il y a un critère, hein, pour quelqu'un qui cherche Dieu, il va chercher la solitude, d'une manière ou d'une autre. S'il vraiment il cherche Dieu, il cherche la solitude. Dieu le cherche bien plus qu'il ne le cherche. Hein. Si l'âme cherche Dieu, son bien-aimé la cherche davantage, dit Jean de la Croix. Thérèse associe aussi le silence à la solitude. Ça va ensemble, on l'observe plus facilement, la solitude. Le silence quand on est seul, c'est clair. On garde plus facilement le silence quand on est seul. La solitude est une grande chose. S'y habituer est un très grand bien pour les âmes d'oraison. Et puis, j'ajoute que si l'on prie depuis longtemps, que le chemin s'approfondit, qu'on devient un peu contemplatif, il y a une véritable solitude qui se crée. Parce que on entre dans la nuit, on entre dans l'obscur, dans un chemin sans appui, et ça c'est très seul, ça. Je pense que le passereau solitaire, voyez, de Jean de la Croix, c'est cela. Vraiment, le chemin de prière est un chemin de solitude avec Dieu, avec Jésus, pour unique compagnon. Les autres ne peuvent pas trop nous rejoindre dans ce qui est si personnel, si intérieur, si profond. Et la prière qui est toute une prière toute de foi, eh bien, la foi crée comme un voile. Ce n'est pas la vision. Il y a à la fois présence et absence de Dieu. Donc, il y a une réelle solitude du priant. Et c'est normal. Alors, Thérèse a le don et le génie d'harmoniser, d'associer, de conjuguer au mieux cette solitude avec la vie fraternelle, la vie avec les autres. Vous voyez, les sœurs sont ensemble. Ça, c'est très typique. Bien sûr, ça paraît banal, mais en fait, pas du tout. Il y a un projet thérésien, il y a vraiment quelque chose de très spécifique que Thérèse veut nous enseigner. Être ensemble, c'est pas seulement un pis-aller, c'est pas parce que c'est la condition humaine qui fait qu'on est des gens qui doivent vivre les uns avec les autres. Non. En fait, il y a vraiment un art thérésien du vivre ensemble. Et tant la vie commune va nourrir la prière, tant la prière va changer la vie commune. En tous les cas, va essayer de lutter pour une vie évangélique. Vous voyez qu'il y a des allers-retours entre cette vie de solitude pour Dieu et cette vie de service et d'amour fraternel qui vérifie la qualité, l'authenticité de la prière, de la prière et de l'amitié avec le Christ. On pourrait dire beaucoup de choses, les sœurs les connaissent ça, tout ça par cœur, sur qu'est-ce que c'est que ce projet thérésien-là, hein. C'est une merveille en fait, hein. C'est pas une communauté comme les autres, on va dire. Allez, je suis un peu chauvin, hein, mais bon, ben, je me refais pas. Je voulais être carmélite, vous voyez, ben, j'y suis pas arrivé. Mais je m'appelle Marie-Pierre, j'ai essayé tout ce que j'ai pu, puis, mais on m'a toujours refusé, j'ai mis une robe, tout ça, mais non, ça passe pas. Mais ça fait rien, on est un frère, et on a aussi des frères, on vit en communauté. Donc on peut peut-être dire quelque chose, c'est le petit collège du Christ, vous savez. Alors il n'y a qu'une loi là-bas dedans, c'est l'amour mutuel. Bon, on fait ce qu'on peut, mais on essaye, on se le redit en tout cas de temps à autre. Alors, c'est en petit nombre, hein, parce que c'est bien choisi, hein, c'est choisi sur, trié sur le volet, on va dire. Hein. C'est très bien choisi, pas trop nombreux pour vraiment pas zapper, hein, pour pas changer d'une sœur que j'aime pas à une sœur que j'aime, voilà. Toutes doivent être amies, donc on va pas chercher celle qui est au bout du couvent. Non, non, c'est celle qui est tout de suite là. Voilà, bah c'est, par malchance, c'est évidemment celle qui est un peu grincheuse. Mais, bon, il n'y a pas de sœur grincheuse à Bayonne, de toute façon, mais on peut dire une autre communauté, disons. Hein. Donc, Thérèse voulait vraiment un amour réel, quoi, un amour effectif. Pas un amour de sensiblerie, pas un amour dans les sphères. Non, 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 un amour vrai. Elle dit purement spirituel, c'est vrai, mais un amour vrai. Voilà, alors là, il y a un climat, je n'ai pas le temps de développer, il y a vraiment un style, il y a vraiment un style. Ah oui, il y a un style thérésien. Ça devrait emballer des jeunes, ça, je ne comprends pas. Mais vraiment, il y a un style thérésien, quoi. Et ça, c'est très attractif, quoi, c'est très attractif. C'est une vraie école de l'Évangile. Oui, c'est une vraie école de l'Évangile. En fait, dans un couvent, il ne manque rien, hein, figurez-vous. Vous n'y êtes pas, vous, enfin, pardon, je parle aux autres, mes sœurs. Mais dans un couvent, il manque rien. Il y a tous les ingrédients pour faire un saint, une sainte, mais je dirais plus une femme, une vraie femme, un vrai homme, normalement. Il y a tout. Il ne manque rien. Ça, il faut vraiment être clair, hein, là-dessus, hein, il faut le dire, hein, dites-le à vos enfants. Mais c'est vrai, il ne manque rien. On croit que, je ne sais pas quoi, derrière, là, c'est... Mais non, il y a tout, il y a plein de choses. Il n'y a pas beaucoup d'écrans, hein. Mais oui, mais ça, on peut vivre sans écran, hein, ça c'est vrai. Et en fait, il y a tout, il y a tous les ingrédients pour s'améliorer, quoi. Pour devenir vraiment, pour donner le meilleur de nous. Pour appuyer sur les bons trucs, pour faire taire un peu tous les trucs qui se disent « à moi, à moi, à moi ». Voilà, donc il y a vraiment tout ce qu'il faut dans une communauté. Ça c'est sûr, et la communauté thérésienne l'honore pleinement. Laboratoire d'humanité, j'ai écrit là. Oui, j'aime bien ça, c'est un vrai laboratoire d'humanité. On apprend à être un homme. C'est long, hein. On peut pas être un saint si on n'est pas un homme, hein. On peut pas être une sainte si on n'est pas une femme, mais vraiment, quoi. Donc, on apprend à s'aimer. Il y a du concentré de toutes les réalités humaines là-dedans. Alors, voyez, ça, Thérèse l'honore bien. Un deuxième point aussi, pour balancer ces deux réalités, intérieures et extérieures aussi. C'est que, au Carmel, c'est apostolique, c'est très contemplatif, mais c'est 100% apostolique. Hein? On entre au Carmel pour sauver les âmes, donc ça c'est la définition, c'est apostolique. Le Carmel ne vit que pour l'Église et pour le monde. Et là, voyez, ça développe ça fait intervenir ce que je viens de dire de la solitude. Parce que si on se cache, si on se retire de la place de Bayonne et des arènes, si on va dans une autre là, ce n'est pas par dépit, ce n'est pas pour dire c'est pourri dehors, c'est mieux dedans. C'est pour être mieux à même de servir dehors, bien sûr. On se retire à cause de dehors, on va dire. Hein. C'est vraiment pour le monde qu'il y a ce retrait du monde. C'est vraiment pour mieux servir tous et toujours pour une présence féconde. Les sœurs s'enfoncent seules avec lui, disparaissent pour une présence à tous les hommes. Ça suffirait pas, comme disait une carmélite qui était infirmière, ça m'aurait pas suffi d'en soigner 10, 20, 2000, 10 000 dans ma vie. Il faut qu'il y ait le monde dans ma salle d'attente, comme disait Jean-Paul II. Le monde est dans votre salle d'attente, disait-il aux carmélites. Voilà. Alors voyez, zèle contemplatif, zèle apostolique. Ça, c'est très uni dans l'amour. Clôture, présence au monde, très uni. Vous voyez un peu ce que je laisse deviner, et ça fait beaucoup de, ça fait sens vraiment pour nous. L'école thérésienne, c'est une école de communion. Et je vais terminer avec ce propos-là sur la communion, parce que je trouve ça très très beau, et il me semble assez moderne et actuel. Thérèse, on a dit, c'est la sainte de l'amitié. Il y a une revue Carmel là-dessus. La sainte de l'amitié. Mais c'est ça. Il me semble que l'amitié, c'est de la communion. Elle est un être de communion. Communion avec son Dieu, elle nous apprend à prier. Comme une amitié. Communion avec les frères et sœurs. Les sœurs du dedans, les frères et sœurs du dehors. Communion. Il souffre, je souffre. Il jubile, je jubile. Voyez, intense communion, communion des saints, communion des choses saintes. D'ailleurs, une chose aussi qui m'a assez marqué, c'est ceci. Vous savez peut-être l'origine de la réforme de Thérèse. Et ça, c'est très beau aussi à voir. D'où ça vient, ce génie-là? Pourquoi elles sont là, les sœurs? À cause de Thérèse, c'est vrai, mais comment elle a trouvé ce génie-là? Elle a écouté l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint, dedans elle, qui disait... À l'incarnation, ça suffit pas. Tu vis pas bien, améliore-toi, change de vie, convertis-toi. 40 ans, hein? On a encore le temps? Non, on n'a pas le temps, c'est aujourd'hui. Mais n'empêche, elle a mis du temps. Elle a entendu l'Esprit, convertis-toi, change. Et elle a entendu l'Esprit dehors, avec tout ce qui se passait dehors. Vous le savez très bien, les missions, les champs immenses, là, de l'Amérique. Et puis, la réforme protestante. Ça a fait comme une étincelle en elle. L'esprit qui dit dehors quelque chose, l'esprit qui dit dedans quelque chose, toc ! Je réforme. En tout cas, je suis le Seigneur qui me dit de commencer une nouvelle vie. Voyez ? Donc il y a une écoute intérieure et extérieure. Est-ce que moi aussi, j'écoute à l'intérieur ce que me dit le Seigneur au long du jour, au long de ma prière ? Comment mon cœur penche ? Est-ce que j'écoute l'Écriture? Et est-ce que j'écoute le monde dans les appels? Le monde, l'Église, les pasteurs, et puis les événements du monde. Hein? Nous, on a eu cet accident chez nous, là-bas en Gironde, vous savez, du car, là. Hein? Alors, on a beaucoup prié, on prie beaucoup pour cela, bien sûr. Et puis, ce jour-là, vous avez vu l'Évangile qu'on a entendu à la messe, hein? La tour de Siloé, badaboum sur les gens. C'est costaud, hein? Quand un prêtre doit commenter ça à la lumière de l'actualité. Voyez ? Si là, nous chrétiens, on ne dit pas « Mais Seigneur, tu nous parles !» Ben, vraiment, c'est qu'on est vraiment bouché, hein ? Franchement. Donc, voyez, écoutez à l'extérieur, mais plongez tout ça dans le cœur à cœur, pour valider tout ça, pour discerner l'important du superficiel. Alors, voilà. Thérèse, une femme de communion, communion avec le Christ, amitié, du soir au matin, du matin au soir, théologale, communion avec les autres, partage, amour du prochain, la sainte de l'amitié. Et on pourrait dire ceci, cultive l'amitié divine, tu sauras être un ami pour tous. Sois un ami de Dieu pour être un ami des hommes. Laisse-le te façonner un cœur de frère, de sœur. Deviens fils pour devenir frère. Oui. Vis l'intériorité intensément et tu sauras t'ouvrir au monde proche et lointain. Vis l'intériorité et tu sauras t'ouvrir au monde. Voyez, ça me semble décisif. Avoir des racines. Avoir des racines. Quand je vois les jeunes là, j'ai encore 2 minutes, hein, 2, 3. Je vois un peu des jeunes là à Bordeaux et c'est les jeunes d'aujourd'hui, ils veulent faire beaucoup de choses, hein. Ils sont affamés, quoi. Hein. Ils veulent faire beaucoup d'expériences. Et puis le monde aussi leur dit, fais beaucoup d'expériences. Essaye, teste un peu tout, quoi. Je dis, ça, c'est pas mal. Pour un CV, il faut faire des expériences. Il faut être à Erasmus là-bas, au Danemark, ensuite filer au Japon, et puis ensuite revenir en France. Et, bon, c'est sûr, il faut faire de multiples expériences, parce que quand on va se présenter à la recherche d'embauche, c'est quand même probant. Ça, à la limite, d'accord. Mais dans la vie spirituelle, si on copie ça, c'est catastrophique. On fait tous les groupes de la planète. À Bayonne, il doit y avoir des groupes. Alors si on va un soir là, ensuite la semaine suivante là, etc. Mais on se pose nulle part. On zappe. On surfe. Ici, on doit surfer très bien à Bayonne, très bien. Et on est dans la superficie, quoi. On est dans le superficiel. Et là, donc, on ne pousse pas de racines. Alors moi, il me semble qu'il faut s'installer dans un endroit. Puis là, même si ça n'a pas toujours beaucoup de goût, on continue. Il faut pousser des racines, sinon on va être les gens d'un moment, comme dit Jésus, hein, et puis la bourrasque va tout emporter. Voilà, vous souvenez que c'était le Saint-Père Jean-Paul II qui avait parlé de cette spiritualité de communion. Vous irez voir Novo Millennio Ineunte, le document pour le millénaire, c'est numéro 43, je le sais même par cœur, le numéro 43. Alors là c'est très 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 beau, spiritualité de communion, qu'est-ce que ça veut dire? Faire de nos communautés des lieux de communion, de nos assemblées, de nos familles, de nos clubs de machin, des lieux de communion. Et c'est une spiritualité, c'est pas d'abord autre chose, c'est une spiritualité qui consiste en un regard du cœur porté sur le mystère de la Trinité qui habite en nous et dont la lumière doit aussi être perçue sur le visage des frères. Voilà. Alors, je nous souhaite de vivre un peu cette spiritualité de la communion qui va engendrer l'unité personnelle, intérieure, l'unité de vie qui témoigne si fort du Christ, qui témoigne si fort d'une vie solide, et puis l'unité de tout notre projet, et à terme, l'unité vraiment de nos communautés, de nos sociétés si diffractées, si coupées. Voilà. Donc demandons à Thérèse de nous conduire sur ce chemin de l'amour unique servi, j'allais dire. Je vous remercie beaucoup de votre attention.
Vivre d'amour avec Sainte Thérèse d'Avila, vous venez de suivre une conférence du Père Marie-Pierre Barjou, Carme, conférence enregistrée au Carmel de Bayonne le 25 octobre 2015 lors de la journée de clôture du 500e anniversaire de la naissance de Sainte Thérèse d'Avila. Pour en savoir plus sur le Carmel de Bayonne, rendez-vous sur le site internet www.carmel-bayonne.org et nous nous quittons avec ce chant des religieuses des Carmélites de Bayonne enregistré le 25 octobre dernier.
Thank you. Thank you.